rappelez-vous, on a voyagé il y a quelques mois, bon, les Wavrinois là, dans la Bible, sur la notion d'attendre, hein, qui est synonyme le plus souvent de espérer, hein, justement. Nous risquons de nous affaiblir si nous ne sommes pas dans l'attente, dans l'espérance. Et on a vu que l'attente touchait quatre dimensions. L'attente du secours de Dieu en toutes circonstances, l'attente de son esprit, l'attente de la venue du Seigneur, je ne sais pas ce que vous attendez comme événement en 2010, mais sachez que le plus grand des événements, je ne dis pas en 2010, mais qui nous attend, c'est le retour du Seigneur. Plus de 300 passages dans le Nouveau Testament parlent de cet événement. Non. Le Seigneur a dit de ne pas fixer le jour ni l'heure. Mais les chrétiens dans les Écritures vivaient comme si son retour était imminent. Ouais. Donc ils attendaient en tout cas ardemment. C'est aussi la quatrième dimension, l'attente de ses instructions. Comme Marie au pied de Jésus, à l'inverse de sa sœur Marthe. Comme les chrétiens d'Antioche qui, pendant qu'ils servaient le Seigneur, le Saint-Esprit dit, allez, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Hein, on a vu ça. Et on a vu que le risque pour l'Église des derniers temps, c'est celui d'être une Église qui n'est plus dans l'attente. Comme l'Église de Laodicée, la dernière des sept Églises. C'est une Église où Jésus est à la porte. Mon Dieu, que ça ne nous arrive pas. L'Église qui se croit riche, qui est pleine d'activité, mais Jésus est à la porte, mon Dieu. Ouais, voilà. Il ne faut pas qu'on soit cette Église. Alors je voudrais vous stimuler à nouveau, ce dimanche, dans l'attente de la venue du Seigneur. J'ai partagé ce sujet-là avec des catholiques la semaine dernière. Et il y en a qui ont été en vérité, m'ont dit, mais... j'attends pas le Seigneur, ou je suis au milieu de gens qui n'attendent pas. Il était vrai, il était sincère. Hein. Et nous, le sommes-nous? Le retour de Jésus est-il une espérance vivante qui m'anime comme elle animait les premiers chrétiens? Et j'ai une autre question, sommes-nous prêts pour la mutation? J'allais dire, mais quelle mutation? La mutation, l'Église épouse. Église, épouse. Est-ce qu'on est prêt pour la mutation? Et alors donc, en faisant tout un séminaire la semaine dernière là-dessus, et en reprenant des messages que j'ai donnés, mais le Seigneur m'a amené à méditer un texte qui me semble incontournable. Si on veut réussir notre mutation, si on veut vraiment être cette Église qui se prépare à être l'épouse, c'est un texte qui nous avertit, hein, c'est la parabole des 10 vierges. Mais juste avant, pour parler, pour souligner, confirmer cette mutation dans que nous devons vivre, je vous rappelle juste quelques versets du Nouveau et de l'Ancien Testament. 2 Corinthiens 11, 2. Je suis jaloux de vous d'une jalousie parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. D'accord? Ça, c'est très parlant, hein? Osée, même dans l'Ancien Testament, il y a déjà cette dimension de fiançailles et de préparation au mariage. Je serai ton fiancé pour toujours. Par la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde, je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Ésaïe 54. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Et bien sûr, dans Apocalypse, chapitre 19, versets 6 à 9, « J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, « Alléluia, notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne, comme on vient de le chanter. » Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Wow. Est-ce qu'on se prépare pour cet événement ? Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Oh, est-ce qu'on permet au Seigneur de tisser ce fin lin pour nous couvrir de sainteté ? Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables. Alors je vais prier maintenant, avant qu'on lise cette parabole des 10 vierges, d'accord ? Pour demander, parce que les paraboles, on a besoin de l'Esprit Saint, c'est pas simple. On a vraiment besoin de l'Esprit Saint pour comprendre. Alors je vais demander l'aide de l'Esprit Saint avant qu'on lise donc cette parabole, tirer quelques éléments, donner une conclusion, d'accord ? Voilà, Esprit Saint, viens nous éclairer. Seigneur, envoie ton esprit pour nous éclairer sur ces paraboles pas toujours faciles à comprendre, à discerner. Il y a quelque chose de caché. Merci, on a besoin de ta lumière. On a besoin de ta lumière. Et Seigneur, dans ces moments, ravive notre attente. Et donne-nous d'être ces vierges sages, hein, qu'on va lire maintenant. Ouais. Seigneur, parle-nous à travers cette parabole. Secoue-nous peut-être, visite-nous et éclaire notre intelligence. Au nom de Jésus, amen. Alors, Matthieu 25, après cette introduction donc. Hein, Matthieu 25, si vous avez votre Bible, vous pouvez le prendre. Les versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, c'est pour ça que j'ai voulu allumer ces bougies là, un petit peu, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Vous voyez, j'ai mis un beau vase qui vient d'Israël, là, ici, avec de l'huile dedans. On vous en parlera après. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non !» Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Waouh ! J'imagine cette porte qui se ferme là. Ouh ! Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, ouvre-nous ! Ouvre-nous ! » Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alors bien sûr, j'ai demandé l'aide du Saint-Esprit pour dire, Seigneur, éclaire-moi à travers cette parabole, mais il y a des choses qu'on peut trouver très clairement, qui sont dites très clairement. Cette parabole est au milieu de 3 paraboles. Il y en a une avant, il y en a une après, qui suivent tous un discours sur le retour de Jésus. Donc, hein. Donc ça montre que le retour de Jésus, ce n'est pas une légende. Hein, c'est... Et puis il y a d'autres textes dans la Bible qui en parlent. Mais elle se distingue des 2 autres qui l'entourent. C'est le même thème, mais ici l'accent est mis sur la rencontre entre l'épouse et l'époux. Hein. Tandis que les 2 autres, c'est plutôt la dimension du serviteur qui attend son maître. Et ça se rapporte plutôt à la tâche ou à l'activité d'un serviteur qui aura des comptes à rendre. Là, ici, il est question de mariage. Quelle est la pensée principale ? être prêt pour l'arrivée de l'époux. Bon, ça, c'est l'idée principale. On est prêt si nos lampes sont allumées et si on a de l'huile. L'huile, dans la Bible, représente quoi ? Ouais. Le Saint-Esprit. D'accord ? Ça, c'est clair aussi. L'huile représente le Saint-Esprit. Donc, l'avertissement de Jésus ici concerne donc le fait de ne pas manquer d'huile du Saint-Esprit pour le jour de la rencontre avec l'époux. Voilà. Ça, c'est l'avertissement. Ne manquez pas d'huile du Saint-Esprit. Car je ne pourrai pas compter sur l'huile des autres au jour du retour. Quelquefois, on peut compter sur l'huile de ses parents ou d'un être cher, d'un ami. Mais au jour du Seigneur, chacun rendra compte pour lui-même. Et la réserve sera pour chacun, c'est tout. Hein? On ne pourra pas échanger notre huile. Je dois veiller donc à mon rayonnement, car je ne pourrai pas compter sur le rayonnement des autres. Je dois avoir mon propre rayonnement. Alors donc, cette parabole nous invite à demander au Seigneur comment établir notre réserve d'huile, de manière à ne pas être pris au dépourvu quand les vierges folles, comme les vierges folles, pardon, quand Jésus va revenir. On a creusé cette question en demandant l'aide du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit, là, pour garder ma réserve d'huile ? La parabole sévère de l'époux adressé aux vierges folles, je ne vous connais pas. Et je crois que Josette, tu insistais là-dessus, tu as raison, indique l'attente de l'époux. Le verbe connaître, ça parle d'intimité. D'accord ? Le verbe connaître, ça parle d'intimité. Donc l'attente de l'époux, c'est une connaissance profonde, une communion. Une communion. Les lampes sans huile symbolisent les œuvres sans la foi ou le travail pour Dieu, mais pas le travail avec Dieu. C'est pas pareil, hein ? Souvenons-nous de Marthe et de Marie. Nous devons veiller quotidiennement à notre communion, jour après jour, quotidiennement. Toute négligence, hein, peut nous amener à perdre le bénéfice de cette communion. Autre chose que le Seigneur m'a dit, on ne peut pas vivre sur nos acquis. Ah, ma conversion il y a 30 ans, formidable, ça y est, j'ai ma... Voilà. On ne peut pas vivre sur nos acquis. Ou sur la bénédiction reçue même hier. Ah, j'étais béni hier, c'est formidable, ça y est, c'est bon, je peux me relâcher un peu pour 15 jours ou 3 semaines. Non, on ne peut pas vivre sur ses acquis. Je ne peux pas m'appuyer sur la bénédiction d'hier, l'expérience magnifique que j'ai eue hier. Si, je peux, ça peut m'encourager, c'est clair. Je peux le prendre comme un encouragement, mais pas m'appuyer pour ensuite négliger, être négligent. Notre Dieu, le Dieu de la communion, hein, d'accord, je l'ai dit souvent. La communion qui est la contemplation du Christ, l'adoration du Christ, l'écoute du Christ certainement aussi, c'est aussi le service et les deux paraboles qui sont autour nous le rappellent. Mais un service qui est le fruit de la communion. D'accord ? De cette communion où je reçois le caractère du Christ. C'est ça qui est important en fait. Le fin lin. C'est ce caractère de Christ qui est en moi qui, bien sûr, produit des œuvres qui sont le fruit de ce caractère. Tout ce que nous faisons doit être le fruit de la communion. Alors, Je vais être très terre à terre. Dans une voiture, quand il manque quelque chose, il y a des voyants. Il y a des voyants. Quand je manque d'huile, il y a un voyant qui clignote rouge, manque d'essence souvent, normalement, hein. D'accord, ou toute autre chose. Reconnaissons les voyants. Reconnaissons les voyants qui nous indiquent le manque d'huile, comme dans une voiture. Et justement, on manque d'huile quand on manque des traits du caractère de Christ. Vous savez, le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur. C'est très caractère qu'on reçoit dans la proximité avec lui. Rappelez-vous ce qu'on a lu dans Osée. Je serai ton fiancé par la droiture, la justice, la grâce, la miséricorde, la fidélité. Je les ai rajoutés sur les bougies. Ça, c'est tous des traits du caractère du Christ. C'est des traits du caractère de Christ. L'absence de grâce et de miséricorde est certainement un voyant rouge qui indique un manque d'huile. Quand je deviens cassant, quand on a un esprit de jugement au lieu d'un esprit d'encouragement, ça c'est un voyant. C'est un voyant. Quand on est prompt à condamner, quand on se laisse aller à la critique ou à la médisance, quand on cultive une négativité, hein, un esprit de plainte, de lamentation, au lieu d'un esprit de contentement, là, voyant, tchou tchou tchou, voyant, clignotant. Oh là là, on manque d'huile. Les deux paraboles qui entourent celle des dix vierges nous éclairent sur la notion de fidélité. Il est parlé de fidélité. Hein. Quel est le serviteur fidèle? La parabole avant, ça parle d'un serviteur qui nourrit. Qui donne la nourriture. La parabole d'après, c'est la parabole des talents, qui parle de faire fructifier le don, le talent que le Seigneur nous a donné. Et ça nous éclaire sur la notion de fidélité. La notion de fidélité, c'est donner ce qu'on a reçu. Je vous dis un principe. Donne ce que tu as reçu, tu recevras. Garde pour toi ce que tu as reçu, tu perdras. Est-ce que vous voulez retenir ça? Hein, les jeunes, retenez ça. Si on donne, on reçoit. Si on garde, on perd. On perd. Ceux qui font le cours alpha, là, actuellement, même ceux qui l'ont fait avant, est-ce que vous ne sentez pas que l'huile, elle est là parce qu'on est en train de donner, on témoigne. L'huile revient. Quand vous avez témoigné à votre collègue de travail, l'huile revient. Et quand on était des semaines, c'est pas donner seulement son témoignage, c'est donner son amour aussi, c'est donner sa compassion, c'est donner. Là, c'est une façon d'entretenir sa réserve d'huile. Autre voyant qui signale notre manque d'huile, la perte de la joie et la perte de la paix, qui conduit inévitablement à un amour refroidi. Romains nous rappelle que le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix, l'amour par le Saint-Esprit. Voilà, le royaume de Dieu, la joie, la paix par le Saint-Esprit, c'est les premiers fruits de l'Esprit dont Paul nous parle dans Galates. Moi, je suis déterminé en cette année 2010, j'ai reçu du Seigneur de ne jamais laisser voler la joie. Voilà, je vous invite à avoir cette même détermination. Parce que si je perds ma joie, je perds la saveur. Alors réfléchissons, bien sûr, à qu'est-ce qui peut nous enlever la joie. L'ennemi peut nous la voler, notre paix, hein, ça fait partie de notre huile. Quand on dépend trop des autres, de l'approbation des autres, peut-être. Et ça montre qu'on n'est pas bien dans notre identité, c'est un signe d'insécurité. On est peut-être confus dans notre appel, dans notre mandat. Ça, c'est un facteur de perte d'huile. Quand on connaît son mandat, c'est un facteur d'équilibre. Quand on est vraiment bien identifié en Christ, c'est un facteur d'équilibre, de repos intérieur. Et là, on ne répond pas à de multiples demandes qui ne font pas partie de notre mandat. Quand on ne dépend pas assez de la grâce de Dieu, quand on n'arrive pas à se pardonner, Ah, oh, j'ai fait ça. Non, c'est pas possible. Ah, si. Si tu n'arrives pas à te pardonner, ça veut dire que tu ne dépends pas de la grâce de Dieu. Et tu tombes dans le piège de Caïn. Caïn, il ne voulait pas dépendre de la grâce de Dieu. Regarde, Seigneur, ce que j'ai fait. C'est moi. Voilà. Regarde. Tandis qu'Abel, il n'osait pas venir comme ça. Il n'osait pas rouler les mécaniques, Abel, devant Dieu. J'ai besoin, j'aurai toujours besoin du pardon, de la grâce. D'accord ? Toujours besoin du pardon, de la grâce. N'oublions pas que ces ingrédients, ces traits de caractère sont le fruit de notre communion. Autre chose que le Saint-Esprit m'a dit, la vigilance quant à la communion nous impose d'être sobres. Et vous allez avoir, chaque fois qu'il est parlé de veiller, vous allez avoir cet appel à être sobre. Par exemple, dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1-6. « Pour ce qui est des temps, des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, etc. Quand les hommes diront paix, sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Nous sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point, mais veillons et soyons sobres. » La sobriété, ça parle de modération, d'éviter des excès. D'éviter des excès, ça peut être des excès de table, ça peut être des excès d'activité, eh oui, excès d'activité. C'est à la fois des excès, ça touche au temps, ça touche à notre esprit occupé aussi. D'accord ? La sobriété, ça parle de concentration, on ne doit pas être déconcentré par rapport à l'appel de Dieu. Le manque de sobriété peut nous couper de la communion. On a besoin de sagesse, là. Et ça peut nous rendre sourds, hein, à la voix de Dieu. Attention, je crois qu'on peut se détendre en faisant des choses qu'on aime, et ça c'est bien, on a besoin de ça. Mais qu'il n'y ait pas de passion qui supplante notre passion pour Dieu. Et ça, on le sait. Moi, je le sais. Par exemple, et heureusement, je connais des amis pasteurs comme moi aussi qui sont mordus de sport. Moi, je suis mordu de sport. Les Jeux Olympiques, j'aime bien, hein, en ce moment. Mais bon, Saint-Esprit me dit de temps en temps, allez, détends-toi ce soir, mais tu vas pas passer la nuit quand même. Et demain matin, voilà, ben je passe pas la nuit, quoi. Je suis raisonnable. Est-ce que si je passe toutes les nuits à regarder les Jeux Olympiques, j'ai plus de temps pour le Seigneur au moment où je dois lire ma Bible et j'ai plus le temps? Donc vous savez chacun ce qui peut supplanter, faire concurrence. Sobriété. On est appelé aussi à reconnaître les temps de visitation du Seigneur. Quand le Seigneur passe quelque part, eh bien, approchons-nous comme Marie. Jésus devait venir souvent chez Marthe et Marie, mais souvent, ce n'était pas forcément toutes les semaines. Hein, il devait venir peut-être deux ou trois fois par an. Mais Marie, quand elle a eu la visite de Jésus, elle dit, il ne faut pas que je manque de l'écouter. Et elle se met tout de suite, tandis que Marthe, elle loupe ce temps de visitation du Seigneur. Et on n'a pas loupé ces temps de visitation du Seigneur. D'accord ? Soyons attentifs à ce que le Seigneur, le Saint-Esprit fait dans la région autour de nous. Ne négligeons pas, bien entendu, le corps du Christ, l'endroit par excellence, normalement, de la visitation du Christ. En restant en contact avec un groupe vivifiant, ou est encouragé l'esprit prophétique. Vous savez ce que Paul a dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il pourrait le redire aujourd'hui. Tellement, il y a de gens qui abandonnent, hein, leur assemblée. On a besoin de l'esprit prophétique, l'esprit de Dieu qui parle, qui est inspiré, la parole inspirée. Et donc si je néglige pas le corps, je risque de garder ma réserve d'huile, d'être alimenté. Et un dernier point avant que j'en arrive à la conclusion. Apprenons à obéir dans les petites choses. pour le Seigneur, il n'y a pas de petites choses. Et la préparation de l'épouse, vous savez, un mariage, et tu viens de vivre ça, Josette, et Samuel, et Amandine, aucun détail n'est... On fait attention à tous les détails. Et je crois que le Seigneur, pour le Seigneur, c'est pareil. Le Seigneur est intéressé par la petite parole que tu as dit, la petite parole, le petit pensée que tu as eue, le petit regard que tu as eu. Il est intéressé par les petites choses. Il ne faut rien négliger. Rien négliger. Apprenons à obéir. Et si le Seigneur t'a dit, fais ceci, ne fais pas ceci autrement. Fais pas comme Saül, le roi Saül, qui... Quand le Seigneur lui donnait un ordre, le Samuel lui disait quelque chose, il faisait à moitié. Apprenons à obéir dans les petites choses. Et alors, je réfléchissais déjà dimanche dernier, je me dis, mais cette parabole a besoin d'une conclusion. Je demandais au Seigneur, quelle conclusion? Et voilà, je voudrais rapporter cette conclusion à travers un autre petit récit où on parle d'huile. Une femme qui avait bu beaucoup d'huile. C'est dans l'Ancien Testament. C'est dans Deux Rois. On va lire ce petit passage, juste pour terminer, et je vous proposerai une démarche après, ceux qui veulent, bien entendu. Oui. Oui. Donc, c'est Deux Rois, chapitre 4, ce passage. Ah, je crois que le Seigneur veut nous encourager à travers ce récit. D'une femme qui n'avait pas beaucoup d'huile. Peut-être tu es là ce matin et tu te dis, oh là là, j'ai pas beaucoup d'huile. Ben, quelquefois, je te rassure, moi aussi je me dis, oh là là, j'ai pas beaucoup d'huile. Ben, laissons-nous avertir, c'est le moment. Attendons pas que Jésus revienne, c'est le moment. Laissons-nous avertir. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Elle n'avait que ça. Elle n'avait que ça, ce petit vase d'huile pour vivre. Et elle dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides, n'en demande pas un petit nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle, sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Waouh. La situation de cette femme semble désespérée. Un mari mort, un mari qui servait Dieu. Des enfants prêts à être vendu comme esclave, et juste un petit vase d'huile pour vivre. Sauf miracle, cette femme est destinée à mourir de faim. Alors on peut faire un comparatif avec notre situation et des situations que nous côtoyons. Non pas un comparatif matériel, parce que je crois qu'on est tous riches à côté de cette femme. Même si on est smicard, on est riche, à côté de cette femme. Mais comparatif spirituel. On a peut-être le sentiment que l'ennemi a volé dans notre vie. Nos enfants, des enfants qu'il nous a envoyés, une partie de notre héritage. On a peut-être le sentiment de ne pas avoir beaucoup d'huile de l'Esprit-Saint. Alors voyons en conclusion ce que cette femme, à travers cette femme, ce que Dieu nous dit, ce qu'il nous enseigne. Elle est dans l'attente, elle ne se lamente pas en disant « j'ai plus que ça ». Et puis à regarder son vase, « j'ai plus que ce petit vase ». Comment ça se fait que mes enfants sont pris en esclaves? Comment ça se fait? Voyez, ça c'est un piège. Un piège, c'est d'être fixé sur son mauvais sort. Un piège, j'ai pas beaucoup d'huile, l'ennemi m'a volé, pourquoi c'est arrivé? Peut-être c'est de ma faute, peut-être pas, je sais pas. Voyez, non, cette femme a refusé la lamentation, a refusé d'être fixée sur son mauvais sort, sur cette petite quantité d'huile, elle est dans l'attente, comme on a dit. Elle ne se laisse pas aller au désespoir. Et va trouver le prophète de Dieu. Chers amis, on peut rencontrer Dieu dans notre chambre. Avoir un cœur à cœur qui peut changer le cours des choses. On a reçu ça dans la prière vendredi. On a reçu cette parole, je vous appelle à des cœurs à cœur avec moi qui peuvent changer le cours des choses. David a appris à avoir ce cœur à cœur et on voit dans les psaumes le changement qui se passe. Elle ose demander dans sa pauvreté, cherchez et vous trouverez, nous dit le Seigneur, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. N'oublions pas la première des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit. Le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Le royaume des cieux est à eux. Qui se savent pauvres, mais qui demandent. Hein? Cette femme veille à suivre rigoureusement les instructions du prophète, même si elle ne comprend pas. Elle aurait pu dire, mais qu'est-ce qu'il me demande, lui? C'est n'importe quoi, enfin, aller chercher des vases vides. Non. Elle ferme même la porte de sa chambre pour ne pas se laisser influencer par les railleries et les moqueries. Elle suit, elle obéit dans les petites choses, comme on a vu. Hein. Nous aussi, on a à attendre et à suivre les instructions de Dieu, même si on ne comprend pas tout. Et quelle est la promesse? J'en arrive à la fin, ça y est. Quelle est la promesse que lui fait Dieu à travers le prophète? Celle d'avoir de l'huile en abondance. Elle en aura assez pour payer sa dette et pour vivre ensuite. Tu vivras de ce qui restera. Tu ne manqueras pas d'huile. Chers amis, Dieu nous fait la promesse à nous aussi, qui pensons n'avoir qu'un peu de l'huile. Elle est pour nous cette promesse aussi, d'avoir de l'huile en abondance. Souvenez-vous ces paroles que j'ai citées à Noël, Ésaïe 42, 3. Il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Elle n'est pas éteinte. Et ce récit est la démonstration de cette parole. Ne sois pas désespéré. Si tu trouves que tu as un peu d'huile, mais tu as un peu d'huile encore, le Seigneur veut multiplier. C'est une promesse reçue ici avec des adorateurs et des intercesseurs le 1er janvier, c'était une réunion ici. Il y avait cette parole, des situations qui semblent mortes, des personnes qui semblent mortes reviendront à la vie. Prenons cette promesse pour nous, mais pour d'autres que nous croisons, que nous allons croiser. Saisissons la promesse de Dieu. Il veut qu'on vienne à lui avec ce vase d'huile. Il n'envisage pas de laisser éteindre cette petite flamme pour recevoir de l'huile en abondance qui nous permettra de retrouver paix, joie, amour, grâce, miséricorde, foi, fidélité, qui nous permettra de retrouver des enfants perdus, éloignés, qui nous permettra de retrouver notre héritage, qui nous permettra de rester en éveil pour la rencontre avec l'époux. Ce que je vous propose, aidé d'une petite musique que Jacques a cédée, une petite musique qui nous va nous inviter un peu au recueillement. Soit vous restez à votre place, voyez, pouvez rester à votre place, mettre vos mains comme ça. Ou vous pouvez, si vraiment vous avez ce désir en vous, de veiller à votre réserve d'huile. Et si vous saisissez en vous la promesse faite par Dieu à cette femme, si vous la prenez pour vous, tu ne manqueras pas d'huile. Tu en auras en abondance. Si la parole frappée vous ouvrira fait écho, alors viens vers ce petit vase d'huile, tout simplement, et puis, voilà, tu trempes le doigt, et puis tu t'oins de cette huile, en signe d'attente, de ton attente, en signe que tu saisis cette promesse, d'avoir de l'huile en abondance. Même dans le désert, le Seigneur sera toujours ton guide, il te rassasira dans les lieux arides. C'est la promesse de ne pas manquer d'huile. Alors je veux juste prier et après je laisse, comme le Seigneur vous conduit, soit à votre place, soit ici, en vous soignant de cette huile-là, comme une démarche de foi et de votre attente. Seigneur, viens. On est tous un peu comme Pierre. Seigneur, tu sais que je t'aime. On sait que notre amour, il n'est pas parfait. On vient comme Pierre. Tu sais que je t'aime. On veut avoir cette flamme qui brille. On veut que notre église soit un chandelier qui brille dans la cité. On veut briller, on veut être prêt pour cette rencontre avec l'épouse. On ne veut pas avoir la porte fermée. Amen, voilà. Donc je vous invite à rester dans cet esprit de recueillement, vraiment à faire silence, avoir les yeux fermés, sauf si vous marchez, vous vous levez, ouvrez vos yeux quand même, pour ne pas tamponner dans les différentes choses. Voilà, je vous invite à faire cette démarche. Pour rester dans le recueillement encore pendant un temps. On a besoin d'apprendre à rester dans le silence. Laissons le Saint-Esprit travailler nos cœurs. Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre, nous rafraîchir, nous visiter, nous rendre la joie et la paix. Nous rendre le premier amour. Si quelqu'un a reçu une parole de connaissance, une parole qui n'hésite pas à la partager, bien entendu, une image ou une pour édifier, pour encourager. Soyez encouragés, que vos lampes soient allumées, que vos lampes brillent de plus en plus de cet éclat. Voilà, ne sois pas caché sous le boisseau, oui. Qu'elle brille, rayonnez. Amen. Amen.